Panorama Économie.
Bonjour, bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Capi. Les titres pour commencer, l'enclavement du district du Haut-Touélé en province orientale, faute de bonnes infrastructures routières, pousse la société civile à appeler la population à une sorte d'incivisme fiscal et la réaction du gouverneur de la province. La réhabilitation de routes est un problème qui le tient à cœur et il nécessite beaucoup de moyens. Encore de la fiscalité et avec ce séminaire des directeurs centraux provinciaux de la DGI qui se clôturent ce soir même à Kinshasa. Ils évaluent depuis mercredi les réalisations 2014 et vont entrevoir les perspectives en vue des réalisations des assignations pour 2015. Une autre actualité de la semaine, l'ONG Azadou a publié cette semaine un rapport selon lequel les coûts des travaux de réhabilitation de certaines routes dans la capitale ne sont pas réalistes. Vous entendrez également la réaction du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Réaménagement du territoire. Voilà pour les titres qui vous seront développés dans un instant. Notre invité, c'est le professeur Godin Poy. Professeur, bonjour et bienvenue à Panorama Économique.
Bonjour Daniel.
Panorama Économique. Le dossier.
Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Nous allons ouvrir Panorama Économique de cette semaine par la province orientale où nous parlions lundi de la société civile du Haut-Touélé qui a annoncé la suspension du paiement des taxes, impôts et redevances sur toute l'étendue de cette juridiction.
C'est le moyen choisi par cette société civile pour protester contre l'enclavement du Haut-Touélé et exiger en même temps la réhabilitation des routes. Tout en reconnaissant la pertinence de ces réhabilitations, le commissaire du district du Haut-Touélé que personne n'a le droit de supprimer la perception des impôts. C'est un reportage signé Jacques Moukonkolé.
La société civile du Haut-Touélé considère cette journée comme une journée de deuil. Cependant, les activités doivent se dérouler normalement. Pour le président de la société civile du Haut-Touélé, M. l'abbé Richard Abakouba, cette action s'explique par le fait que l'État ne fait rien en faveur de la population locale en dépit des taxes perçues.
Ça fait des années qu'on paye des taxes, des impôts. On nous a promis qu'on allait réhabiliter nos axes routiers, mais jusque-là, rien n'a été fait. Voilà pourquoi nous pensons que cette fois-ci, l'autorité va quand même écouter notre cri de détresse pour nous réhabiliter les axes routiers.
Tout en reconnaissant la légalité de la revendication de la société civile du Haut-Touélé, le commissaire de district de cette juridiction l'exhorte à attendre la réponse du gouvernement provincial à ce sujet. Entre-temps, la perception des taxes doit se poursuivre sous
En attendant cette réponse là-bas, tout doit continuer normalement. Donc, vraiment dit, les gens vont continuer à percevoir et nous allons demander aux gens de ne pas se laisser, les opérateurs économiques ne doivent pas se laisser entraîner dans cette désobéissance, franchement, dans cette forme presque de rébellion.
Signalons que pour marquer la tristesse face à l'enclavement de leur milieu, la population se promène avec des rameaux sur des motos et vélos. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Et 4 jours après, c'est le gouverneur Jean Bamanista qui a donné de la voix. Pour lui, la réhabilitation de routes est un problème qui le tient à cœur. Elle nécessite des moyens financiers conséquents. Plutôt que de pousser la population à l'incivisme fiscal, la société civile ferait mieux de l'exhorter à payer ce qui revient à l'État pour lui donner les moyens de sa politique. On écoute Jean Bamanista au micro d'Anselme Mansoy.
En ce qui concerne les désenclavements, effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous ne sommes pas tranquilles. Nous pensons que la société civile doit au contraire pousser les opérateurs économiques, les assujettis à payer les taxes parce que avec nos moyens que nous percevons ici, nous sommes en train de faire les études pour de ici jusqu'à Niangara avec une équipe de la FEC Ouacha. Nous sommes en train de négocier comment est-ce que nous pouvons leur signer un contrat de concession pour qu'ils fassent la route. Il nous faut absolument des moyens pour pouvoir nous lancer dans les ouvertures de route. Mais nous ne pouvons pas pousser à l'incivisme fiscal comme la société civile la préconise. Ce n'est plus permettre de continuer à faire les travaux. C'est un geste d'illégalité aussi que celui de pousser à l'incivisme fiscal.
Jean Bamanista, gouverneur de la province orientale, qui répondait ainsi à la société civile. Professeur, nous revenons, vous êtes professeur de l'économie, je pense, vous enseignez aussi la fiscalité.
Parfait.
Voilà. La société civile pousse les gens, la population, à ne plus payer les taxes et impôts et redevances. Et là, dans la réaction de la société civile, on sent que c'était un moyen de pression qu'il a utilisé pour pousser le gouvernement, cette fois-ci, le gouvernement provincial, à entendre la voix de la population qui paye avec les démunis, hein, qui payent cet impôt, ces impôts, ces taxes, mais qui ne voient pas les retombées de ces devoirs.
Merci Daniel, j'ai suivi la réaction des uns et des autres, mais sur le plan principal, vous savez que la population congolaise est essentiellement fisco-taxophobe, donc c'est une population qui est hostile au paiement de l'impôt et des taxes. Je pense que lorsque la société civile se décide de citer la population à l'incivisme fiscal, je crois que là, elle a quand même dépassé les bornes. Et ils ont raison de réclamer leurs droits auprès du gouvernement.
Elle procéderait comment?
Non, il y a plusieurs moyens pacifiques. Notamment, il y a des pétitions, il y a des marches. Parce que lorsque vous interdisez à la population de ne plus payer la taxe, ce sont les taxes et les impôts constituent les ressources principales des entités territoriales décentralisées. Donc lorsque vous interdisez à la population de ne pas payer à ce moment-là, donc vous ne voulez même pas qu'on puisse continuer les travaux. Donc là, on est en train de tourner en rond. Ce que moi je suggère, sans chercher à soutenir forcément ou aveuglément les gouvernements, la société civile devait continuer à demander aux redevables de s'acquitter régulièrement de leurs impôts et taxes, mais faire des moyens de pression. Il y a des moyens légaux, il y a des parlements, nous avons aujourd'hui des assemblées provinciales, nous avons une assemblée nationale, et il y a des moyens pacifiques. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le paiement d'un impôt a aussi des aspects psychologiques. Lorsque vous avez déjà demandé aux gens de ne plus payer, certainement que vous aurez
un message contraire dans ce sens-là ne marcherait pas.
Ça marchera difficilement.
Et parce que vous avez parlé de l'Assemblée nationale, des assemblées provinciales, justement, et puis nous restons dans la fiscalité pour aborder ce deuxième sujet de la semaine, et je pense que ça va encore vous donner de la parole, parce que dans cette actualité, nous allons revenir sur ce que le directeur de la Direction générale de l'impôt a dit au cours de ce séminaire qui se tient depuis le mercredi ici à Kinshasa, la direction générale qui est en train d'organiser une séance annuelle des directeurs centraux et provinciaux qui se réunissent pour évaluer les réalisations de 2014. Ils vont voir les forces et les faiblesses de la régie en vue d'envisager les actions à mener pour réaliser les assignations 2015, François.
Voilà, le directeur général de la DGI a annoncé une mobilisation des recettes dans l'ordre de plus de 86%, réalisation en hausse de 15% par rapport à 2013. Je vous propose d'écouter Dédoné Lokadi.
En ce qui concerne la mobilisation des recettes, paramètre essentiel d'appréciation de l'efficacité des missions d'une administration fiscale, il sied de noter que sur les prévisions budgétaires de l'exercice 2014, 1958 milliards de francs congolais, la Direction générale des impôts a réalisé des recettes chiffrées à 1699 milliards 372 millions 077 000, soit un taux d'exécution de 86,76%. Par rapport à l'année 2013, où les réalisations s'étaient chiffrées à 1473 milliards de francs congolais, les réalisations de 2014 ont connu un accroissement de près de 225 milliards 909 millions de francs congolais, soit près de 15,33% d'accroissement.
Le directeur général de l'impôt, mais le ministre des Finances qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ce séminaire, n'est pas du tout flatté par ces résultats 2014 de la Direction générale des impôts. Suivez plutôt le ministre Yav Moulang.
S'il est vrai que ce niveau de recettes traduit une amélioration notable en valeur absolue, comparativement à l'année 2013, où la Direction générale des impôts avait mobilisé 1,473 millions de francs congolais, il doit être relevé non seulement que ces réalisations sont en deçà des attentes, parce que les assignations qui sont des minima à réaliser n'ont pas été atteintes, mais aussi qu'elles restent encore largement inférieures au potentiel fiscal de notre pays. C'est ici l'occasion de rappeler que la loi des finances 2015 assigne à la DGI des recettes de l'ordre de 2,374 millions de francs congolais à mobiliser, et j'attends de vous que ces prévisions de recettes soient intégralement réalisé. À chacun de vous de fournir les efforts nécessaires pour atteindre les niveaux des assignations qui lui sont fixés.
Yves Moulang, le ministre des Finances de la RDC, professeur, je vous laisse faire votre analyse par rapport à ce séminaire de la Direction générale des impôts avant de vous poser la question qui me vient à l'esprit.
Autant d'abord je félicite la DGI pour les performances relatives.
86% des réalisations.
Donc nous pouvons les féliciter. Mais je partage le point de vue du ministre des Finances parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas dans notre pays, c'est qu'avant mai 2001, nous avions un taux de croissance qui était négatif. Mmh. Et ce taux, aujourd'hui, il est estimé à plus de 8% par le gouvernement de la République. Logiquement, il devait y avoir une corrélation entre l'évolution de ce taux de croissance ainsi que les recettes fiscales, particulièrement celles qui sont liées aux bénéfices des sociétés ainsi que la rémunération des personnes. Donc là, je partage le point de vue du ministre des Finances, mais je pense que son excellence ne devait pas s'arrêter seulement là. Le problème dans notre pays, c'est de déterminer ses potentiels, parce qu'on en parle tant.
Justement, c'est ce mélange là qui me pousse à revenir. Il faut déterminer le potentiel.
Ouais.
Donc si vous aviez, nous n'avons pas voulu faire long le son du DG de la DGI, qui a relevé quand même quelques difficultés liées à la faiblesse de mobilisation des recettes pour ne pas faire les 100%. Il y a entre autres la prolifération de petites et moyennes entreprises qui ne sont pas contrôlées, dont les chiffres d'affaires sont inférieurs à 80 millions de francs congolais l'an pour être assujettis à la TVA. Ça pose un problème. Et aussi, il a relevé le fait que dans les assemblées provinciales, même à l'assemblée, c'est difficile dans les institutions publiques, les établissements publics, de collecter l'impôt. C'est un problème à ce niveau-là. Donc, il se pose un problème d'élargissement de l'assiette fiscale.
Parfait. Donc, dans chaque action de recouvrement des recettes, il y a toujours des résistances. Mais les problèmes fondamentaux qui se posent dans notre pays, c'est que nous devons arriver à déterminer le quantum fiscal de ce pays. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Vous le savez mieux que moi qu'en finance publique, il y a des méthodes d'évaluation des recettes. C'est la pénultième année ainsi que l'évaluation directe. Malheureusement pour notre pays, nous sommes toujours dans la pénultième année. Donc, il faut qu'on puisse aujourd'hui se servir de l'outil de l'économétrie pour voir quelles sont les variables les plus significatives qui interviennent dans la mobilisation des recettes, de manière à imaginer une droite de régression qui peut nous permettre, par la modélisation économique, de déterminer aujourd'hui les potentiels fiscal de ce pays. On en parle tant, mais au fait, les scientifiques parlent du concret. On ne doit pas rester en l'air à parler du potentiel qui serait énorme. Il y a moyen de les calculer par les outils de l'économétrie. C'est à cela que j'invite son excellence monsieur le ministre des Finances, avec tout ce qu'il a comme intelligence, pour soi consulter les experts en la matière, qu'ils puissent mettre ces modèles à la disposition du gouvernement de la République, et ça nous permettra d'apprécier objectivement les efforts des uns et des autres.
Et nous espérons que les directeurs centraux provinciaux de la DGI qui clôturent ce soir même leur séminaire à Kinshasa mettront en marche les bonnes stratégies pour réaliser les plus de 2000 milliards de francs congolais comme assignation qu'ils ont pour 2015. Nous allons aborder à présent le dernier sujet de notre dossier de la semaine. Dans un rapport de monitoring des infrastructures réalisé à Kinshasa, l'ASADO souligne que les montants alloués à ces travaux sont exorbitants.
Voilà, l'ASADO souligne tout de même l'apport des ouvrages exécutés dans le développement de la ville de Kinshasa, mais fustige le manque de transparence, de qualité et de respect des droits humains dans la réalisation de ces infrastructures. Le chargé de la protection des victimes à l'ASADO demande tout simplement la mise en place d'un audit sur l'ensemble de ces travaux. Maître Jean Keba, je viens par Radio Capi.
Nous avons conclu qu'il y a une surfacturation de travaux, surtout que les travaux réalisés n'indiquent pas les éléments objectifs qui pouvaient nous aider à pouvoir apprécier la hauteur des dépenses engagées. Je peux prendre l'exemple de l'avenue Lutendele. Et quand nous regardons dans les prévisions, le coût prévu est de 21 millions 10 000 dollars américains. D'après une presse chinoise que nous avons consultée en ligne, il y avait le rapport que les travaux ont déjà été réceptionnés par le gouvernement de la RDC, ce qui veut dire qu'ils étaient déjà achevés. Mais nos enquêteurs qui sont arrivés sur le terrain ont constaté qu'on a juste à peine commencé à asphalter quelques mètres et les travaux ont été abandonnés au point que l'avenue est pratiquement aujourd'hui semblable à un ravin où ne roulent que les motos. Si on peut évaluer les coûts réellement engagés pour faire ces quelques mètres d'asphaltage, vous verrez que les manques à gagner sont très exorbitants. Et pour dégager le manque à gagner, nous avons demandé quand même qu'il y ait un audit indépendant, sérieux, qui puisse évaluer qu'est-ce qui a été réellement engagé comme dépense, afin de voir par rapport aux coûts qui étaient prévus par le contrat, qu'est-ce que l'État a perdu.
Nous avons également enregistré la réaction du ministère des infrastructures, travaux publics qui s'oppose à ces propos de l'ASADO qui dénonce la surfacturation des travaux entrepris par les entreprises chinoises à Kinshasa dans le cadre du programme sino-congolais. Il n'en est pas du tout le cas. Parlons par exemple de la différence des prix de construction d'une route au Congo-Brazzaville et à Kinshasa par ces mêmes entreprises chinoises. Chrysostome Ilangongo, directeur de cabinet adjoint du ministre de l'ITPR, soutient que ces prix varient selon les difficultés de l'environnement et de la plateforme où les routes sont posées. Il l'a dit, Chrysostome Ilangongo donc l'a dit au micro de Innocent Olenga.
Nous pensons qu'il y a un grand problème d'information ou d'interprétation des chiffres. Et à ce niveau-là, nous voulons dire que l'ASADO avait été invité par l'Agence des grands travaux, après consultation de son site, de venir pour préciser certaines choses. Et je pense que ça n'a pas été le cas. En ce qui concerne le boulevard du 30 juin, il y a un détail. Vous savez qu'on a 8 voies. Donc, une route à 8 voies est un équivalent de 4 routes. Donc, à ce niveau, déjà, il y a un problème de comparaison. On parle de 19 millions. Si je peux faire rapidement 5 km fois 4 routes, c'est 20 km. Donc, si je prends les 19 millions divisé par 20 km, on est un peu en dessous de 1 million. Mais, par contre, si quelqu'un prend 19 millions divisé par 5 km, c'est un autre chiffre. Et la deuxième chose que je veux dire sur le boulevard du 30 juin, vous savez que c'est une zone marécageuse. Je viens de vous expliquer tout à l'heure le soubassement. Il faut faire la part de choses entre la route que vous posez et tout ce que vous devez faire pour épuiser la nappe. Tout le monde a observé qu'on est allé parfois à plus de 1 mètre.
Le dernier dossier de la semaine, professeur, vous avez suivi comme nous l'actualité cette semaine. Certainement, vous avez un mot à placer, les infrastructures qui sont présentées et leurs coûts selon l'ASADO qui sont surfacturés.
Merci Daniel, j'ai à suivre les propos de l'expert de l'ASADO ainsi que les propos du DIRCAB de son excellence monsieur le ministre en charge des infrastructures. Ils ne se mettent pas d'accord apparemment sur les plans chiffréistes, mais moi ce que je peux vous dire, c'est vrai que la construction des routes dépend de l'environnement dans lequel ces routes sont construites, mais il y a quand même des standards. Notez, lorsque vous êtes en Belgique, une route de fois 2 vous prend par kilomètre 3 700 000 euros. Cela veut dire que, toutes choses étant égales par ailleurs, si nous rentrons dans la logique des 4 fois 2, donc ça doit être le double. Mais au regard des chiffres que l'ASADO avance, c'est quand même inquiétant. C'est pourquoi nous demandons au ministère des infrastructures de mettre sur la place publique. C'est ça aussi la bonne gouvernance.
Oui, justement.
Oui, les coûts exacts de ces routes. Mais là où moi je ne suis pas d'accord avec les DIRCAB du ministre en charge des infrastructures, sur le plan des chiffres, je les comprends. L'ASADO peut ne pas avoir la maîtrise des chiffres. Mais les routes qui sont faites ne sont pas de bonne qualité. Aujourd'hui, quand il pleut, cette ville se transforme en un second fleuve.
Ouais.
Je peux te donner l'exemple. Vous savez, quand on a terminé ces routes, moi, personnellement, je n'avais plus besoin de partir à Doha pour faire plaisir à mes yeux. C'était tellement beau. Mais depuis un certain temps, ce sont des trous qui commencent encore à apparaître sur ces routes. Mais c'est le DIRCAB doit savoir que lorsque l'ASADO parle, ce n'est pas que l'ASADO est contre le régime, non.
Justement.
Nous, nous aimons notre régime et la meilleure façon de soutenir ce régime, c'est de lui prodiguer des conseils pour que les choses soient bien faites. Il y a de l'argent qui sort, on doit quand même connaître comment les routes...
Et si justement on doit demander aux gens de payer l'impôt et taxes, c'est pour avoir de bons ouvrages.
Nous poussons les gens à payer les impôts. Et ce que je peux dire par exemple, si l'ASADO a raison, ceux qui détournent la route, l'argent de la route s'attire la malédiction. On ne vole jamais l'argent de la route. Toute personne qui va rencontrer un événement malheureux sur cette route-là, criera soit au Seigneur, soit à ses ancêtres. Et ça a des répercussions sur les gens qui font ce genre de choses. Donc, bref, je voulais dire, nous sommes contents des infrastructures qui sont en train d'être construites, mais nous sommes un peu déçus parce qu'avant une année, il y a déjà des routes qui se détériorent.
Il faut un audit pour que la vérité soit connue.
Impérativement. Non seulement qu'il faut auditer En Belgique, par exemple, lorsque il y a une entreprise qui gagne un marché en termes de construction de routes, l'entreprise donne la garantie d'au moins 5 ans. D'une manière telle que si jamais il y a des problèmes, l'entreprise va rafistoler ses routes sans encore demander à l'État de décaisser.
Mais ce n'est pas le cas chez nous.
Nous souhaitons qu'il en soit ainsi.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Le reste de l'actualité de la semaine, en plus bref, lundi, nous allons parler des conclusions de la première réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, selon lesquelles l'économie mondiale devrait croître de 3,5% en 2015 contre 3,3% en 2014. Celle de la RDC, prévue à 10,4% contre 8,9% en 2014. Ces perspectives sont celles du FMI. Cette croissance est soutenue à l'international par la baisse des cours de pétrole qui a favorisé la demande internationale et au plan national, essentiellement soutenue par le secteur extractif. Cependant, le Fonds monétaire international craint pour l'incertitude des prix du pétrole qui pourrait remonter brutalement et changer toutes les données. Lundi toujours à Bounia, c'est environ 20 personnes, notamment des douaniers déclarant commissaires en douane qui ont pris part à une journée d'information sur la nouvelle procédure de douanement des marchandises dans le cadre du projet territoire douanier unifié entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Selon Symphorien Kassindi, chargé de la réglementation et de la facilitation à la direction des douanes assises DGDA en provenance de Kinshasa, cette nouvelle procédure stipule que la sortie de toute marchandise entreposée au port de Dar es Salaam en Tanzanie sera subordonnée à la présentation des preuves de paiement effectuées à la DGDA en RDC. Et lundi, nous allons terminer par le Kasaï oriental où la société minière de Bakwanga avait reçu la visite d'une délégation de la firme chinoise Famital. Le but de cette visite était d'apprécier les conditions et la possibilité d'établir un partenariat susceptible d'aider l'AMIBA à reprendre la production du diamant. Ainsi, l'AMIBA pourrait trouver les moyens de financer son plan de relance.
Voilà, mardi, et au Nord Kivu, précisément dans le territoire de Rutshuru, nous avions parlé du comité de pêcheurs des Vichumbi qui veut intensifier les patrouilles mixtes. Comité des pêcheurs, ICCN, Force Navale, sur les lacs Édouard. Pour y parvenir, le gouvernement provincial a instauré une taxe appelée Fonds de développement de la pêche FDP. Ainsi, les commerçants qui importent le poisson de l'étranger et ceux qui y approvisionnent dans les différentes pêcheries du lac sont tenus de payer 10 dollars par tonne à l'entrée. Grâce à ce fonds, le comité aura suffisamment les moyens pour, entre autres, l'achat du carburant qui servira à intensifier les patrouilles. Ces patrouilles aideront aussi à décourager les pêcheurs clandestins qui viennent notamment de l'Ouganda et ainsi augmenter la production de poissons au niveau du lac Édouard. Une autre lutte contre les opérations illicites, cette fois-ci, elle concerne la voie ferrée dans les Katanga. La SNCC déclare avoir mis la main sur tous les inciviques qui recherchent certains minerais riches en cuivre le long de la voie ferrée. Une pratique qui entraîne plusieurs déraillements et de pertes de marchandises. Le dernier cas en date, c'est le train marchandise de la SNCC qui a quitté la cité de Tinké depuis le 9 février dernier, mais qui est arrivé seulement lundi. Toujours mardi, et à Kisangani, une délégation conduite par le ministre de l'Industrie en partance de Kinshasa est arrivée dans cette ville de la province orientale. La délégation a évalué le projet de la construction de la future cimenterie de la province orientale Siport. Un projet dont la première pierre avait été posée en juin 2007 par le chef de l'État, Germain Kaminga, et notamment accompagné de quelques investisseurs nord-coréens.
Mercredi, en Ituri, l'entrepôt de la DGDA situé au groupement Délé dans la périphérie sud de la ville de Bounia ne changera pas d'adresse comme l'ont souhaité les autorités de la chefferie Baboa Bokoe. La DGDA versera plutôt aux coutumiers de Baboa 27 millions de francs congolais à titre des droits coutumiers. C'est en ces termes que le gouverneur de la province, Jean Bamanissa, a tranché dimanche dernier le litige foncier qui oppose les deux parties depuis plus de 2 ans. Et à Matadi, nous parlons de la rencontre mardi entre le transporteur routier œuvrant sur la nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi et le ministre provincial du transport. Ces chauffeurs ont exprimé leur mécontentement au sujet du non-respect par les employeurs du protocole d'accord du 19 janvier 2013. Selon le porte-parole de la force ouvrière au Congo, antenne du Bas-Congo, la structure qui regroupe chauffeurs et convoyeurs de véhicules poids lourds, la commission de suivi mise en place à Kinshasa, cet effet ne se réunit plus. Le ministre provincial de transport a justifié cette situation en partie par l'arrivée du nouveau gouvernement.
Et jeudi, au Katanga, la Fédération des entreprises du Congo FEC Olomami déplore la mauvaise gestion de fonds générés par le service d'assiette au marché central de la cité de Kamina. Selon le président de la FEC à Kamina, au moins 1 200 000 francs congolais récoltés chaque mois dans la perception de petites taxes journalières ne sont pas orientés dans le développement de ce marché. L'administrateur de Kamina rejette la responsabilité de la gestion de ses recettes au chef de la cité de Kamina. Toutefois, Théophile Deo s'est dit prêt à négocier avec le responsable de la cité sur les projets réalistes par rapport au montant perçu. Pour terminer à Bukavu, le gouvernement provincial du Sud Kivu est doté désormais d'une chaîne de dépenses informatisées officielle. La cérémonie de remise de l'outil informatique a eu lieu. C'était le jeudi à la Banque Centrale du Congo, extension de Bukavu. C'est en présence d'une délégation conduite par le responsable national du projet de renforcement de capacité en gouvernance. La chaîne de dépenses s'est faisait mensuellement jusque-là. Elle va maintenant aider à une meilleure gestion des finances publiques et la transparence des fonds en province.
Merci François Faudeton, on s'arrête à cette actualité de jeudi et nous allons retrouver notre invité, le professeur Godin Poi, pour clôturer cette émission. Professeur, nous avons plus parlé dans cette émission de la fiscalité d'abord en province orientale où la société civile de Haut-Touillé demandait à la population de ne plus payer les taxes et impôts parce que la contrée était enclavée, et à Kinshasa la DGI avec tous ses directeurs provinciaux et centraux qui réfléchissent sur comment mobiliser encore davantage de recettes fiscales pour l'exercice 2015. Et à côté de cela, une conséquence de cette fiscalité, les routes qui sont surfacturées comme dénoncé par la ZADO. Vous donnez une petite conclusion et par là nous allons refermer notre émission d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Daniel. Lorsque vous lisez la charpente budgétaire de notre pays, vous vous rendrez compte que nous sommes un état fiscal parce que les gros de nos recettes courantes sont produites par les régies financières.
Pour ne pas vous couper, au départ, vous aviez dit que la société congolaise est fiscalophobe. Ça veut dire quoi? Cela m'a retenu. C'est-à-dire, c'est une population hostile à la fiscalité.
Voilà. Donc, je veux parler d'une société qui est fiscalo-taxophobe. Donc, les gens n'aiment pas payer l'impôt chez nous. Déjà, sur le plan culturel.
C'est une bonne chose ou une mauvaise chose?
Une très mauvaise chose. Donc, on doit apprendre à la population de contribuer aux charges de la République. Et cela est même constitutionnel. En retour, on demande également aux dirigeants de bien gérer, comme c'est fait dans la plupart des cas, de bien gérer ses ressources. Mais la population doit savoir que l'impôt n'a pas de contrepartie directe. Donc c'est peut-être des choses qu'on néglige, mais qu'il faut dire. Ce n'est pas parce que vous avez payé l'impôt aujourd'hui que votre avenir doit être impérativement
assuré. Mais les fiscalistes nous ont aussi appris que quand vous payez une taxe, vous devez avoir une contrepartie pour une taxe.
Pour ce qui concerne la taxe, il y a une contrepartie.
Mais lorsque la contrepartie ne vient pas...
Mais il y a des taxes qui ont des effets équivalents à l'impôt. C'est notamment aujourd'hui avec la fiscalité locale. Il y a des taxes qui ont des effets équivalents à l'impôt.
Donc, lorsque vous la payez, ne vous attendez pas à une contrepartie
directe. Mais la contrepartie indirecte doit toujours suivre. N'est-ce pas? Mais ce que je voulais suggérer ici, c'est que la population doit continuer à payer ses impôts, tandis que les gouvernements ou les gouvernorats doivent aussi apprendre à mieux gérer ses recettes, ça va enthousiasmer davantage les contribuables à payer ses impôts et cela va favoriser le développement de notre pays. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne paye pas l'impôt et attendre des jours meilleurs. Donc si nous refusons de payer nos impôts, alors le Congo va disparaître parce que nous sommes un état fiscal.
La société civile de Haute-Ouélé en province orientale, comme tout autre opérateur activiste de droits de l'homme qui irait dans ce sens-là, un conseil par exemple?
Je pense qu'il y a eu plus d'émotions que de raisons dans cette prise de position. Ils doivent continuer à payer les impôts, mais exercer des pressions légales sur le gouvernorat, en passant notamment par l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale et pourquoi pas par l'étrichement des pétitions.
Merci beaucoup professeur Godin Poyi. Vous êtes professeur de l'économie, vous enseignez aussi la fiscalité et en dehors de ça, vous êtes pasteur.
C'est le titre que j'aime le bien. Donc je suis pasteur à part du fait que je suis professeur à l'Institut supérieur de Gombe et à l'Université de Kinshasa.
Vous êtes pasteur et nous retenons ça. Merci beaucoup pasteur d'avoir accepté encore notre invitation. Nous serons encore heureux de vous avoir dans les prochains jours dans ce studio de Radio Okapi.
Par contre, c'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites souvent de m'appeler dans vos studios.
Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés pendant ces 30 minutes. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous. Retrouvez Panorama économique toute la semaine sur www.radiookapi.net. Au revoir.